Bonjour et bienvenue dans la quatrième dimension. Le livre tibétain de la vie et de la mort par Sogyal Rinpoche. Troisième partie, un changement au plus profond de notre être. Réfléchir en profondeur sur l'impermanence, comme le fit Krishna Gotami, nous amène à une compréhension intime de cette vérité exprimée en tant de force par les vers du maître contemporain Nyoshul Kempo. La nature de toute chose est illusoire et éphémère. Les êtres à la perception dualiste prennent la souffrance pour le bonheur. Semblable à un homme léchant du miel sur le fil d'un rasoir. Ô combien pitoyable ceux qui s'accrochent si fort à la réalité concrète. Amis de mon cœur, tournez plutôt votre attention vers l'intérieur. Tourner notre attention vers l'intérieur est cependant loin d'être aisé. Nous sommes bien plus enclins à nous laisser dominer par nos vieilles habitudes et nos comportements solidement ancrés. Bien qu'il soit la cause de notre souffrance, comme le dit Nyoshul Kempo, nous les acceptons pourtant avec une résignation presque fataliste. Tant nous sommes habitués à leur céder. Nous pouvons faire de la liberté un idéal tout en demeurant totalement esclaves de nos habitudes. La réflexion peut pourtant nous amener lentement à la sagesse. Nous pouvons nous apercevoir que nous retombons sans cesse dans des schémas habituels de comportement et aspirer alors de tout notre être à leur échapper. Bien sûr, nous y retomberons encore maintes et maintes fois, mais peu à peu, nous pourrons en émerger et nous transformer. Le poème suivant s'adresse à chacun de nous. Il est intitulé Autobiographie en 5 actes. Premier acte. Je descends la rue. Il y a un trou profond dans le trottoir. Je tombe dedans. Je suis perdu. Je suis désespéré. Ce n'est pas ma faute. Il me faut longtemps pour en sortir. Deuxième acte. Je descends la même rue. Il y a un trou profond dans le trottoir. Je fais semblant de ne pas le voir. Je tombe dedans à nouveau. J'ai du mal à croire que je suis au même endroit. Mais ce n'est pas ma faute. Il me faut encore longtemps pour en sortir. Troisième acte. Je descends la même rue. Il y a un trou profond dans le trottoir. Je le vois bien. J'y retombe quand même. C'est devenu une habitude. J'ai les yeux ouverts. Je sais où je suis. C'est bien ma faute. Je ressors immédiatement. Quatrième acte. Je descends la même rue. Il y a un trou profond dans le trottoir. Je le contourne. Cinquième acte. Je descends une autre rue. Le but d'une réflexion sur la mort est de susciter un changement réel au plus profond de votre cœur. D'apprendre à éviter le trou dans le trottoir et à emprunter une autre rue. Cela exigera souvent une période de retraite et de contemplation profonde, qui seule pourra vous aider à ouvrir vraiment les yeux sur ce que vous faites de votre vie. Examiner la mort n'est pas forcément effrayant ou morbide. Pourquoi ne pas y réfléchir lorsque vous vous sentez particulièrement inspiré et détendu, bien installé, allongé sur votre lit, en vacances, en train d'écouter une musique qui vous enchante? Pourquoi ne pas l'évoquer quand vous vous sentez heureux, en bonne santé, sûr de vous et empli de bien-être? N'avez-vous jamais remarqué qu'il existe des instants particuliers où vous vous sentez naturellement porté à l'introspection? Utilisez-les avec délicatesse, car ces moments vous offrent la possibilité de vivre une expérience décisive, et votre entière perception du monde peut alors être modifiée très rapidement. Dans de tels moments, vos croyances passées se désagrègent spontanément et votre être peut s'en trouver profondément transformé. La contemplation de la mort fera naître en vous une compréhension plus profonde de ce que nous appelons le renoncement. En tibétain, Nge Djung. Nge signifie vraiment ou définitivement, et Jung, sortir de, émerger ou naître. Par une réflexion fréquente et approfondie sur la mort, vous vous apercevrez que vous émergez de vos schémas habituels, souvent avec un sentiment de dégoût. Vous vous sentirez de plus en plus disposé à les abandonner. Et finalement, vous serez capable de vous en dégager aussi facilement, disent les maîtres, que l'on retire un cheveu d'une motte de beurre. Ce renoncement auquel vous parviendrez vous procurera à la fois tristesse et joie. Tristesse, en réalisant la futilité de vos comportements passés, et joie, en voyant la perspective plus large qui se déploiera devant vous quand vous serez capable d'y renoncer. Ce n'est pas là une joie ordinaire. C'est une joie qui donne naissance à une force nouvelle et profonde, à une confiance et à une inspiration constante. Lorsque vous réalisez que vous n'êtes pas enchaîné à vos habitudes, mais que vous pouvez vraiment en émerger, changer et vous libérer de plus en plus. Le battement de cœur de la mort. Nous n'aurions aucune chance d'apprendre à connaître la mort si elle ne se produisait qu'une seule fois, mais heureusement, la vie n'est rien d'autre qu'une danse ininterrompue de naissance et de mort, une danse du changement. Chaque fois que j'entends un torrent dévaler la pente d'une montagne ou des vagues déferler sur le rivage, ou encore le battement de mon propre cœur. J'entends le son de l'impermanence. Ces changements, ces petites morts, sont nos liens vivants avec la mort. Ils en sont le pouls, le battement de cœur, et nous incitent à lâcher tout ce à quoi nous nous accrochons. C'est donc maintenant dans cette vie qu'il nous faut travailler avec le changement. C'est le vrai moyen de nous préparer à la mort. Tout ce que la vie contient de douleur, de souffrance et de difficultés peut être perçu comme autant d'occasions qui nous sont offertes pour nous conduire graduellement à une acceptation émotionnelle de la mort. Seule notre croyance en la permanence des choses nous empêche de tirer la leçon du changement. Si nous nous coupons de la possibilité d'apprendre, nous nous fermons et commençons à nous attacher. Or, cet attachement est la source de tous nos problèmes. L'impermanence étant pour nous synonyme d'angoisse, nous nous cramponnons aux choses avec l'énergie du désespoir, bien que tout soit pourtant voué au changement. L'idée de lâcher prise nous terrifie, mais en réalité, c'est le fait même de vivre qui nous terrifie, car apprendre à vivre, c'est apprendre à lâcher prise. Telles sont la tragédie et l'ironie de notre lutte incessante en vue de nous emparer de toute chose. Cela non seulement est impossible, mais engendre la souffrance même que nous cherchons à éviter. L'intention qui nous pousse à la saisie n'est pas forcément mauvaise en soi. Il n'y a en effet rien de mal dans le désir d'être heureux, mais ce que nous cherchons à saisir est par nature insaisissable. Les Tibétains ont coutume de dire qu'on ne peut laver deux fois la même main sale dans la même eau courante d'une rivière, et que, peu importe avec quelle force on presse une poignée de sable, on n'en tirera jamais d'huile. Prendre à cœur la réalité de l'impermanence, c'est se libérer peu à peu de l'idée même d'une saisie, d'une croyance erronée et nuisible en la permanence, et d'un attachement trompeur aux valeurs rassurantes sur lesquelles nous avons tout bâti. Nous commencerons à entrevoir progressivement que la douleur causée par notre tentative de saisir l'insaisissable était, en fin de compte, inutile. Accepter cela pourra être douloureux. Au début, car nous y sommes si peu habitués. Pourtant, si nous continuons à y réfléchir, notre cœur et notre esprit se transformeront progressivement. Lâcher prise nous semblera plus naturel et deviendra de plus en plus aisé. Il nous faudra peut-être du temps pour nous rendre compte de l'étendue de notre égarement. Mais plus nous réfléchirons, plus nous comprendrons et développerons cette attitude nouvelle. Notre regard sur le monde s'en trouvera alors radicalement transformé. Contempler l'impermanence n'est pas suffisant en soi. Il nous faut travailler avec elle dans notre vie. La vie, de même que les études de médecine, exige à la fois théorie et pratique, et c'est ici et maintenant. Dans le laboratoire du changement que se déroule la formation pratique, nous apprendrons à observer chacun d'eux à la lumière d'une compréhension nouvelle. Et, bien qu'ils continuent à se produire de la même manière qu'auparavant, quelque chose en nous sera différent. La situation dans son ensemble apparaîtra plus détendue, moins intense et douloureuse. L'impact des changements que nous subirons nous semblera lui-même moins intolérable. À chaque changement successif, nous acquérons une plus grande compréhension et notre perspective de la vie deviendra plus profonde et plus vaste. Travailler avec les changements. Faites cette expérience. Prenez une pièce de monnaie et imaginez que c'est l'objet que vous voulez saisir. Tenez-la bien serrée dans votre poing fermé et étendez le bras, la paume de votre main tournée vers le bas. Si maintenant vous relâchez et desserrez le poing, vous perdrez ce à quoi vous vous accrochiez. C'est la raison pour laquelle vous saisissez. Mais il est une autre possibilité. Vous pouvez lâcher prise sans rien perdre pour autant. Le bras toujours tendu. Tournez la main vers le ciel. Ouvrez le poing. La pièce demeure dans votre paume ouverte. Vous lâchez prise. Et la pièce est toujours vôtre, malgré tout l'espace qui l'entoure. Ainsi, il existe une façon d'accepter l'impermanence tout en savourant la vie, sans pour autant s'attacher aux choses. Examinons maintenant ce qui arrive fréquemment dans les relations de couple. Bien souvent, nous nous apercevons que nous aimons notre conjoint. Seulement, quand nous réalisons que nous sommes en train de le perdre. Nous nous accrochons alors à lui, ou à elle, d'autant plus fort, mais plus nous agissons de la sorte, plus il ou elle nous échappe et plus la relation devient fragile. Nous désirons le bonheur. Pourtant, le plus souvent, la façon même dont nous le recherchons est si maladroite et si inexperte qu'elle nous cause seulement davantage de tourments. Nous supposons généralement qu'afin de l'obtenir, nous devons saisir l'objet qui, selon nous, assurera notre bonheur. Nous nous demandons comment il est possible d'apprécier quelque chose si nous ne pouvons le posséder. Combien nous confondons attachement et amour. Même dans le cadre d'une relation heureuse, l'amour est dénaturé par l'attachement, avec son cortège d'insécurité, de possessivité et d'orgueil. Et puis, une fois l'amour parti, il ne nous reste plus que les souvenirs de l'amour, les cicatrices de l'attachement. Que pouvons-nous donc faire pour triompher de cet attachement? Tout simplement en réaliser la nature impermanente. Cette réalisation nous libérera peu à peu de son emprise. Nous aurons alors un aperçu de ce que les maîtres décrivent comme l'attitude juste face au changement. Être semblable au ciel qui regarde passer les nuages, ou être libre comme le mercure. Quand du mercure tombe à terre, il demeure par nature intact. Il ne se mélange jamais à la poussière. Si nous nous efforçons de suivre les conseils du maître, et nous libérons peu à peu de l'attachement, une grande compassion se fera jour en nous. Les nuages de la saisie dualiste se dissiperont et le soleil de notre cœur resplendira de la vraie compassion. C'est alors que nous commencerons à goûter au plus profond de nous l'exaltante vérité de ces vers de William Blake, qui veut lier à lui-même une joie de la vie brise les ailes, qui embrasse la joie dans son vol, dans l'aurore de l'éternité demeure. L'esprit du guerrier. Bien qu'on nous ait encouragés à croire que nous perdrions tout si nous ouvrions la main, la vie en de multiples occasions nous démontre le contraire. Le lâcher-prise est en effet le chemin de la vraie liberté. Lorsque les vagues se jettent à l'assaut du rivage, les rochers n'en sont pas endommagés. Au contraire, l'érosion les modèle en forme harmonieuse. Les changements d'eux-mêmes peuvent façonner notre caractère et arrondir ce qu'il y a en nous d'anguleux. Essuyer les tempêtes du changement nous permettra d'acquérir un calme plein de douceur, mais inébranlable. Notre confiance en nous grandira et deviendra si forte que notre bonté et compassion commenceront naturellement à rayonner de nous pour apporter la joie aux autres. C'est cette bonté fondamentale existant en chacun de nous qui survivra à la mort. Notre vie entière est à la fois un enseignement qui nous permet de découvrir cette puissante bonté et un entraînement visant à la réaliser en nous-mêmes. Ainsi, chaque fois que les pertes et les déceptions de la vie nous donnent une leçon d'impermanence, elles nous rapprochent en même temps de la vérité. Quand vous tombez d'une très grande hauteur, vous ne pouvez qu'atterrir sur le sol de la vérité. Et si vous possédez la compréhension née d'une pratique spirituelle, tomber ne constitue en aucun cas un désastre, mais au contraire, la découverte d'un refuge intérieur. La difficulté et les obstacles, s'ils sont correctement compris et utilisés, deviennent fréquemment une source inattendue de force. Quand vous lisez les biographies des maîtres, vous observez que bien souvent, s'ils n'avaient pas rencontré de difficultés ni affronté d'obstacles, ils n'auraient pu découvrir en eux la force nécessaire pour les surmonter. Tel fut par exemple le cas de Gesar, le grand roi guerrier du Tibet, dont les aventures constituent la plus grande épopée de la littérature tibétaine. Gesar signifie indomptable, que l'on ne peut briser. Dès l'instant de sa naissance, son mauvais oncle, Trotung, fit tout ce qui était en son pouvoir pour le tuer. Mais à chaque tentative, Gesar devenait plus fort. En définitive, ce fut grâce aux efforts de son oncle que Gesar devint si puissant. D'où le proverbe tibétain Trotung Tromatungna Gesar Gemisar, ce qui signifie sans la méchanceté et les machinations de Trotung, Gesar ne serait jamais élevé aussi haut. Pour les Tibétains, Gesar n'est pas seulement un guerrier au sens habituel du terme. Il est aussi un guerrier spirituel. Être un guerrier spirituel, c'est développer un courage d'un genre particulier, foncièrement intelligent, doux et intrépide à la fois. Les guerriers spirituels peuvent éprouver de la peur, mais ils ont suffisamment de courage pour oser goûter à la souffrance, pour établir un rapport clair à leur peur fondamentale et ne pas se dérober lorsqu'il s'agit de tirer des leçons de leurs difficultés. Comme nous le dit Shogyam Trungpa Rinpoche, devenir un guerrier signifie que nous sommes capables d'échanger notre poursuite mesquine de sécurité contre une vue plus vaste, faite d'audace, de largeur d'esprit et d'héroïsme authentique. Entrer dans l'arène transformatrice de cette vue beaucoup plus vaste, c'est apprendre à être à l'aise dans le changement et à se faire une amie de l'impermanence. C'était le livre tibétain de la vie et de la mort. Prochaine émission, prochaine partie. Le message de l'impermanence, l'espoir contenu dans la mort. Merci beaucoup et à bientôt. Dans la quatrième dimension.